Camille Allary, L'âme envolée. Ce matin, de très bonne heure, une grande clameur m'a réveillé. Mon village était mis en émoi par l'arrivée d'une caravane de bohémiens espagnols, et la gendarmerie les traquait de ville en ville. De guerre lasse, ils sont venus se réfugier dans ce hameau paisible, perdu au milieu des montagnes. Il y avait une dizaine de voitures chargées d'un bric-à-brac sordide. Les enfants du pays, toute une ribambelle d'enfants curieux et hâbleurs, marchaient derrière eux. Les bohémiens sont campés au-dessus du village, tout près du cimetière vieux. Ils sont vêtus de guenilles aux couleurs éclatantes. De ma fenêtre, je vois des profils superbes se dessiner sur le mur croulant, au-dessus duquel apparaissent les cimes des cyprès funèbres et les fûts blancs des pierres tombales. Cet après-midi, je suis allé visiter le campement. Il se compose de 13 tentes dressées en forme de triangle. Celle du chef est au centre. Les autres se groupent autour. Quelques roses étiques, attachées aux roues des voitures, broutaient avec un appétit féroce la paille qui était mélangée à leur crottin. J'ai compté 20 hommes. Les femmes étaient en nombre à peu près égal. Il y en avait de très vieilles. J'en ai rencontré une, pliée en deux, au visage parcheminé, sillonné de larges rides, qui se tenait debout avec peine. Appuyée sur un bâton noueux, ses rares cheveux gris secoués par le vent, les pieds nus, elle allait de tente en tente, demandant avec des gestes pleins de supplications de l'eau pour remplir la marmite de fer qu'elle portait sous l'aisselle. On est une sorcière des balades allemandes se rendant au sabbat. Les jeunes filles sont robustes. J'en ai vu de merveilleusement belles. Elles ont les yeux clairs et profonds des orientales. Le soleil a roussi leur peau, sous laquelle se distingue pourtant le réseau foncé des veines. Elles se drapent avec coquetterie dans les pans de vieux rideaux à ramages coloriés. Des pans de loques, de corail et de coquillages se balancent à leurs oreilles. Des pièces de monnaie trouées, reliées par un fil de métal, s'enroulent autour du cou comme un collier. Un mouchoir entoure la tête et retient la masse sombre des cheveux. Deux longues tresses, ornées à leur extrémité de faveurs roses ou bleues, pendent derrière le dos. Les hommes sont grands et nerveux. Leur chevelure huileuse n'a jamais été taillée. Une barbe fine couvre le visage. Ils vont en manches de chemise et portent des bottes éculées qui montent jusqu'aux genoux. Le chef est un beau vieillard, aux traits rudement accentués, à la barbe blanche, touffue comme celle des dieux égyptiens. Il rappelle au souvenir le Frédéric Barberousse des Burgraves. Dès qu'il parle, les bohémiens se taisent respectueusement. Quand il veut faire exécuter un ordre, il siffle d'une certaine façon. À ce signal, des extrémités du campement, la troupe entière accourt en hâte. Ces gens-là vivent dans la saleté avec une morgue insouciante qui fait rêver. Des odeurs grasses, des senteurs de vermine qui soulèvent le cœur, sortaient de ces tentes puantes où les paillots, les matelas, les casseroles, les selles, les enfants nouveau-nés, pêle-mêle, étaient entassés. Des haillons poisseux, des couvertures moisies, des paillasses que l'urée avait jaunies, étendues sur le gazon, séchaient au soleil. Près de moi, une jeune femme assise sur un chaudron donnait le sein, un sein noir et allongé comme une mamelle de chèvre, à un enfant de 3 mois. Et pendant que le poupon tétait le lait tiède qui sortait de cette poche charnue, la mère, très grave, écrasait entre ses doigts les poux qui couraient sur le crâne de cette petite créature, entre les boucles soyeuses de ses cheveux. Les enfants de ces sauvages sont presque tout nus. Ce n'est guère qu'à 7 ans qu'ils commencent à faire usage des défroques paternelles. Lorsque je suis entré dans le camp, toute cette marmaille s'est abattue à mes côtés. Les petites mains crasseuses se tendaient vers moi, et les bouches rouges comme des fleurs de grenadier criaient sur des tons différents. Mousieux, mousieux, un peu de tabac, je prierai le bon Dieu pour vous. Puis ils se sont mis à jouer dans l'herbe autour du camp. Les plus âgés fumaient de grosses pipes dont les noix chaudes venaient heurter près du nombril la peau jaune de leur ventre luisant et rebondi. Plusieurs femmes vaquaient aux soins du ménage. Un peu plus loin, accroupies sur le sol, quelques-unes de leurs compagnes disaient, moyennant une pièce de deux sous, la bonne aventure de naïves paysannes. Elles leur prenaient les mains, les regardaient un instant, faisaient un simulacre de signe de croix dans le vide, et disaient avec des airs de sibylle antique, « Tu auras beaucoup d'enfants, et tu seras heureuse. » Elles recommençaient ensuite la même comédie, avec d'autres victimes. En attendant l'heure du repas, les hommes couraient les campagnes des environs où ils espéraient vendre leur rosse borgne. Le soir, un grand mouvement s'est fait dans le camp. Les bohémiens se portaient en masse vers une tente dressée au bord du sentier qui monte avec des zigzags capricieux au sommet de la colline. Je les ai suivis. Et là, dans l'ombre, étendue sur un matelas crevé, une jeune fille se mourait. Elle avait la beauté parfaite des camées. Une maladie terrible la dévorait doucement. Elle allait exhaler le dernier souffle. Sur sa face s'étendaient déjà des teintes de cire jaunie. Deux roses se fanaient dans ses cheveux. Une couverture en lambeaux la recouvrait en partie. Coupés à ses côtés, les bohémiens debout restaient silencieux. Le chef, qu'il appelait Fauna, s'approcha de sa couche et lui parla à voix basse. La pauvre fille fit signe qu'elle ne pouvait plus remuer les lèvres. Elle voulut s'asseoir sur le matelas. Immédiatement, un jeune homme s'agenouilla près d'elle et avec mille précautions la soutint, un bras sur la taille. À ce moment, le soleil se couchait. On eût dit qu'un immense incendie embrasait l'horizon. La gitane contempla longtemps ce spectacle grandiose. La nuit qui tombait lui faisait peur. Elle avait le regret amer d'une vie moissonnée dans sa floraison. Parfois, elle remuait sa tête amaigrie et sa pantomime triste disait « C'est hier, il me semble, que ma folle jeunesse errait au hasard en plein soleil, le long des buissons poussiéreux des grandes routes. Je vivais heureuse, je n'aurais pas quitté mes baillons pour la robe lamée d'or d'une reine. Une ardente soif d'amour dévorait mon cœur de 16 ans. On venait de me fiancer, j'allais devenir la fille du chef, et voilà que mes beaux rêves s'écroulent. Oui, ce soleil que j'ai vu se lever si souvent, les jours de marche, je le regarde pour la dernière fois, car demain, des milliers de verres hideux ramperont sur ce visage, au contour si pur, dont j'étais si fier autrefois. » Brusquement, Fauna, les yeux gonflés de larmes, se laissa tomber en arrière. Par intervalles, des hoquets coupaient ses sanglots. L'agonie commençait. C'était navrant de voir cette belle créature se tordre et se débattre sous les embrassements de la mort. Alors le chef se coucha à plat ventre. Les bohémiens, hommes et femmes, l'imitèrent. Ils priaient. À un signal donné, ils se levèrent pour commencer une danse brusque, faite de contorsions et de déhanchements, qu'avec une mélopée lente et monotone, le vieillard accompagnait. Ils prirent des tessons de bouteilles qu'ils disposèrent sur le sol de façon à former un grand cercle autour de la mourante. Le remous des pins que le vent du soir courbait et le cri attristant des chouettes interrompaient seuls cette étrange cérémonie. Une cage se balançait au cul d'une voiture. Le chef se dressa, prit entre ses mains le chardonneret qu'il habitait, revint à pas lents et approcha le bec de l'oiseau de la bouche de la gitane. La jeune fille se roidit, balbutia quelques mots. Ses yeux s'illuminèrent de lueur bleuâtre, puis sa tête, qu'elle voulait soulever, s'affaissa lourdement. Le drame de la mort était fini. Le chef posa une couronne d'olivier sur le front de Fauna. Ensuite, il ouvrit les doigts et le char d'Honoré, qui emportait avec lui l'âme de la bohémienne, s'envola. La caravane partit le lendemain dès l'aube. En face de l'emplacement occupé jadis par le camp, des cailloux rangés en tas indiquent aux passants que le corps voluptueux d'une jeune fille pourrit là-dessous. Et à cette heure, toutes les fois que j'entends parler des bohémiens, je songe à ces gitanos qui vinrent une claire matinée de septembre faire halte tout près du cimetière dans les chaleurs lourdes du soleil. La vie turbulente de ces chevaliers errants de la misère, leurs éclats de rire sonores, contrastaient avec la paix profonde de ce coin de terre inculte où dormaient les morts. Aussitôt, je revois Fauna, froide et livide, sur son matelas crevé. Et là-bas, bien loin, le char d'Honoré, qui doit conduire sa jeune âme dans les prairies paisibles, heureux de sa liberté retrouvée, en pépillant gaiement, vole à tire-d'aile au-dessus des vergers d'oliviers, dans les premières ombres du crépuscule.